Vous écoutez Accès libre.
Avec Karine Villeneuve, Kamal Salifou à la recherche, Lynn Gargano. Linda Gauthier est au téléphone, Madame la Présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Bonjour.
Bonjour, M. Martin.
Dans vos nombreuses plaintes à la Commission des droits de la personne, Linda, avez-vous eu l'occasion, vous, de vous plaindre de chambres d'hôtel ou d'endroits où vous auriez aimé que la Régie du bâtiment du Québec réagisse un peu plus?
Bien, c'est à venir, mais en ce qui concerne l'hôtel, ça s'est réglé finalement entre nous.
Ça veut dire quoi? Et avez-vous un truc? Est-ce que c'est un règlement qui vous a satisfait?
Oui, ça okay. m'a satisfait parce que, disons que ça m'a permis de faire de plus d'actions militantes, effectivement. Puis, ils ont pris mes recommandations en
considération.
En considération. Mm-hmm. Puis, dans une première phase, ils ont fait pas mal ce que je voulais et ça sera peut-être un des premiers hôtels au Québec qui va avoir des chambres avec déjà des rails au plafond pour les personnes qui utilisent des lèvres personnes. Mmh. C'est assez rare.
C'est dans quelle municipalité?
Québec.
Et avez-vous une idée de l'échéancier pour qu'on puisse en parler lorsque tout sera dûment conçu?
Ben, disons qu'il y a déjà deux chambres qui n'ont pas les rails encore, mais ils ont acheté des lèvres personnes portatives. Et la prochaine phase, c'est au printemps.
OK. Ben là, il reste à dire c'est où, finalement?
Oui, c'est ça. Au Château Frontenac.
OK, OK. Donc, il faut avoir quand même quelques dollars.
Mais je veux dire, c'est quand même meilleur que du bonbon.
Ben oui, non, tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Surtout que, bon, lorsqu'on présume vouloir dépenser quelques dollars et on est obligé de passer par presque côtoyer les bennes à ordures pour rentrer, là,
ouais.
Je veux dire, on a le droit de s'attendre à un service de première classe.
Absolument.
Linda, c'est rare que je prends le temps de vous appeler pour vous permettre de partager la bonne nouvelle. Uh-huh. Je trouvais l'occasion vraiment intéressante parce que il y a quoi, une dizaine de jours environ, ouais. vous avez rendu public, disons, vous avez voulu mentionner l'effort d'une boutique à Montréal qui pense à nous.
Absolument. Et c'est la boutique Nespresso au 2045 rue Crescent qui, en 2009, ont ouvert dans un immeuble de style victorien, donc évidemment patrimonial. Et ben ils n'ont pas pensé à ça. Hein. C'est comme la majorité des ouais. commerçants ne pensent pas à ça. Et nous, on a un membre, à un moment donné, qui est membre aussi chez Nespresso et étant certain que cette boutique-là était accessible, c'est une multinationale quand même, Nestlé Canada et tout ça, il s'est rendu et il a vu qu'il y avait des marches. Mm-hmm. Et c'était en janvier. Alors, il l'a pas trouvé drôle. T'sais. On a voulu l'aider, mais il y a un fauteuil motorisé. Bref, finalement, il a dit, mais ça a toujours bien pas de bon sens. Alors, nous, on a contacté Nespresso et puis ils ont été très, très réceptifs à cette idée-là. Très réceptifs. Ils ont dit, oui, on va voir ce qu'il y en est par rapport à ça. Et finalement, au bout de à peine 3 mois, je pense, ils nous ont contactés en nous disant que c'était les plans étaient faits et que c'était pour être chose faite. Ils nous ont même pas parlé des contraintes qu'il y avait auprès là, du Conseil du patrimoine ou d'Héritage Montréal et tout ça. Et paraîtrait-il que oui, il y en a eu certaines, mais je veux dire, ça les a pas intimidés, puis ils ont quand même procédé à la chose et de façon très esthétique.
Qu'est-ce qui est impliqué dans les changements à poser?
Il y avait à faire une rampe, bien évidemment.
Pour l'entrée dans la boutique?
Exactement. Okay. Nous, on avait demandé aussi s'il y a possibilité d'élargir peut-être un peu les portes. C'est des portes en verre, là. Et puis, on trouvait que c'était dangereux, qu'il était assez étroit. Puis, étant donné le grand gabarit des aides à la mobilité, là, plus ça va. Mais finalement, ça n'a pas été fait. Mm-hmm. Bref, ils ont fait ça. Un miroir dans l'ascenseur pour qu'on sache où on va quand on recule, si on est en fauteuil.
Ah, c'est une bonne idée, ça. J'avais pas pensé que vous aviez besoin d'un miroir, vous autres.
Ben oui.
Ah oui, c'est bon.
Oui, nous autres, oui. Et, bon, c'est l'espace aussi, la configuration des tables. Vous comprendrez que c'est une boutique qui est quand même chic. Et ils ont des fauteuils et tout ça qui prennent assez de place, là, finalement.
Ouais.
Fait que là, on leur a dit un petit peu comment reconfigurer leur table. Et puis, ils ont accepté vraiment tous nos conseils. Avec une petite recommandation aussi à leur staff, là, en leur disant, ben, tu sais, c'est ça. Pas juste pour les personnes à mobilité qui ont des problèmes de moteur, en fait, mais les autres personnes. Et on, Luc, sont en train de penser à un menu en braille.
Ah, bon, mais c'est chouette, ça. Parlez-moi de la salle de bain, et ensuite, c'est sûr, là, je peux pas m'empêcher de vous demander s'ils ont pensé à Karine.
Ben là,
Karine, elle va choquer.
Ben,
là.
Ça dépend. Est-ce que au niveau du. Je comprends bien, c'est un café aussi. Au niveau du comptoir.
Comptoirs sont très hauts. Je dois avouer que les comptoirs sont très, très hauts. On avait demandé est-ce qu'il y ait une section abaissée. Ils nous ont dit ben, on va vous porter vos trucs au bout du comptoir et tout ça. N'en demeure pas moins que c'est haut. Et puis, le personnel, comment je dirais bien ça? Je les excuse pas.
Non.
Mais le personnel sont tellement courtois là, que c'est comme... vraiment, là, je leur donnerais une note de 11 sur 10. Là. C'est vraiment... Ils sont stylés. Et puis, même pour nous en fauteuil, Karine, on est pas mal de la même hauteur, là, finalement. Et puis, c'est la même chose. Ils viennent toujours... on sent pas une... discrimination positive. On sent pas qu'ils en mettent trop. Là. Tu sais, c'est fait vraiment tout en douceur, tout en élégance et bon. Fait que je pense pas que les comptoirs soient abaissés demain matin, mais je dirais que ce qu'ils ont fait déjà, là, c'est quand même beaucoup plus que la majorité ont fait dans cette section.
Les champleurs dans les salles de bain sur le côté ou dans le fond pour que Karine puisse pas les ouvrir?
Dans le fond, pour que Karine puisse pas les ouvrir.
Ah, oh, désolé, Karine.
Ouais. Okay. Ben oui.
Mais c'est incroyable. C'est depuis que je côtoie Karine que je me rends compte qu'on oublie Karine.
Ben oui.
Même dans les salles de bain accessibles, je n'ai pas encore vu dévier avec l'équipement sur le côté.
C'est vrai.
C'est incroyable.
C'est vrai. Puis quand on fait des recommandations, nous, étant pas la société logique, bien sûr, on pense pas à ces affaires-là. Mais je te le jure, Karine, que je vais y penser.
Non, mais on comprend. Mais c'est de là l'importance d'être présent. Là,
oui, c'est pour ça que je voulais que vous veniez. Puis c'est parce que là, vous m'avez sensibilisé. On en parle. Si on sensibilise la Gautier, vous imaginez au nombre de plaintes qu'a fait?
Ben, je pense que Linda a été sensibilisée la semaine passée là, sur un autre dossier, là, sur nos recommandations.
Vraiment.
Là, on veut savoir.
Apprécié. Ben, vas-y, Karine, mets la table.
Ben, en fait, je pense que vous avez fait une Linda, comme vous êtes... vous avez été élue, je crois, la personne représentant les personnes...
À la ville, là?
Avec le syndicat, pour les postes Canada, pour le dossier...
Okay.
Là, de la fin du service, là, du service de livraison à domicile. Mm-hmm. Et on a participé, nous, à la QPPT, au point de presse organisé par le Raplique, justement pour faire valoir que si ce service-là cesse, ça peut nous affecter aussi.
En tout cas, moi, les seules boîtes communautaires que j'ai eu l'occasion d'avoir à Sherbrooke étaient trop hautes pour vous.
Oui, mais des fois, c'est pas juste une question d'auteur. Nous, qu'est-ce qui est plus, problématique, c'est au niveau de la marche. C'est que nous, on se déplace pas en fauteuil roulant. Alors, si on doit aller au bout de la rue ou je ne sais pas où, aller chercher notre courrier, tout ça, c'est de se déplacer, ramener des colis. C'est encore plus problématique pour nous.
Ouais.
Mais vous avez quand même, vous êtes obligé déjà d'aller chercher votre lait chez le laitier, votre pain chez le boulanger, puis vos médicaments à la pharmacie?
Oui, c'est
ça. Des choses qu'on venait nous porter à nos portes quand moi, j'étais jeune?
Oui, mais quand même, c'est un service qu'on veut garder.
Ouais.
Parce que justement, tous ces déplacements-là, on veut aussi économiser nos énergies et tout.
Mm-hmm. Ben, sans compter qu'ils ont fait des profits extrêmes là, au deuxième trimestre. Là. 53 millions, c'est quand même mieux qu'une claque en pleine face, là. On s'entend-tu? Fait que je pense que c'est un service qu'on... En tout cas, c'est certain que nous, ils vont avoir bien de la misère au Québec, en tout cas à Montréal, à implanter leur fameuse boîte communautaire.
Sinon, est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles, Linda? Est-ce que leur applique fait ça occasionnellement? Est-ce qu'on veut en faire une mention annuelle? Est-ce que...
Je dirais que oui, c'est quelque chose qu'on va mettre... ça va être un nouvel outil, là, mm-hmm. finalement. La minute positive.
Oui, oui, oui.
C'est quelque chose comme ça, oui. Effectivement, on va le faire. Puis on ose espérer que, justement, les commerçants vont embarquer là-dedans. Comme Nespresso nous a permis de faire un communiqué de presse là, c'est malheureux qu'ils ne nous donnent pas la réplique aujourd'hui parce que ça relevait de M. Alexandre Raté qui est à l'extérieur du pays. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Puis finalement, nous, on va continuer aussi là avec Nespresso. On va aller voir les autres commerçants qui sont autour et qui auraient peut-être... Leur montrer que c'est un avantage, tu sais, que c'est pas finalement, là, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Je pense qu'il y en a plusieurs, puis là, j'en ai un dans ma mire, là.
OK.
Chez Alexandre, sur la rue Pille, le restaurant de M. Croton.
Vous sortez dans des beaux endroits, vous.
N'est-ce pas?
Là, je me posais la question, parce que souvent, on entend l'argument. On se prive d'une clientèle. Puis, avez-vous, par hasard, puis vous avez le droit de dire non, avez-vous entendu l'entretien que j'ai eu hier avec Linda Galland à
non.
l'émission Ça vaut le tour? Linda est propriétaire des auberges des Galland, de l'auberge des Galland.
Okay.
Avez-vous vu le reportage à la facture?
C'est la dame que toutes ses chambres sont accessibles.
Ben oui.
Oui.
Et Linda nous disait, et bon, c'est en rediffusion, sinon vous allez sur le canal m.org, nous disait à quel point... C'est vrai qu'il y a un gros bénéfice à ouvrir ses portes à une clientèle à mobilité réduite. Elle m'expliquait, et c'était encore plus candide lorsqu'on se parlait avant l'entrevue au téléphone, elle me disait, Luc, toutes les fins de semaine, j'ai plus de monde à cause de mon accessibilité.
Ben,
et là, elle me disait, entre autres, qu'elle faisait son argent avec les mariages. Et elle me disait... Je vais avoir 100 personnes, 110 personnes, parce qu'une ou deux personnes peuvent venir parce que c'est accessible et ne peuvent pas aller ailleurs.
Voilà.
Donc, à un moment donné, c'est vrai que quand tout le monde le sera, il n'y aura plus cet avantage-là. Mais pour le moment, il y a vraiment un manque à gagner. Et sans être 100 personnes à aller chez Alexandre en même temps que Linda, c'est sûr que si Linda aime se tenir là... puis qu'on est ensemble, puis qu'on est obligé d'aller chez Alexandre, bien, non seulement ils vont faire de l'argent avec elle, mais avec moi aussi.
Oui, mais... Oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf que chez Alexandre, comprenez bien que je peux pas y aller l'hiver, hein? Parce que c'est pas accessible.
Oui, oui. Bien, c'est ça. Pour ça...
Mais pour faire le... Oui, effectivement, Mme Galland a tout à fait raison, et puis je pense qu'il y en a plusieurs qui devraient prendre exemple sur elle, parce que c'est un fait.
C'est ça, c'est pas juste d'être fin. C'est pas juste d'être fin et d'offrir l'accès, ce qui devrait être un droit pour tous, mais en plus, c'est payant. Puis normalement, c'est ça que les gens veulent.
Oui, absolument.
Avez-vous déjà donné du sang, Linda Gauthier?
Oui.
Est-ce que c'était facile?
C'était facile avant que je sois que j'ai la sclérose en plaques, oui.
Est-ce que depuis que vous êtes en fauteuil, vous avez eu l'occasion, en fait, on a toujours l'occasion, mais vous avez dit oui à la demande de Emma Québec?
Bien, je ne peux pas en donner parce qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est pas sanguin, la sclérose en plaques.
Ah, OK. Donc, vous êtes... Karine, vous?
Je dois avouer, non.
OK.
Ça ne m'est jamais arrivé.
Ils ont un plan d'action pour l'accessibilité des personnes handicapées 2014-2015 chez Emma Québec. Et on va en parler avec Laurent-Paul Ménard. Vous comprenez ce que ça veut dire, Linda Gauthier?
Oui.
Que je vous dis bonjour.
Bonne fin de journée à tous deux. À tous trois.
À bientôt.
Merci. Bye bye. Au revoir.
C'est un petit répondeur, alors on continue quelques mesures. Chance, on n'arrive pas à joindre Laurent-Paul Ménard, porte-parole pour Emma Québec, alors on a dérangé Linda Gauthier. J'avais envie, tiens, puisque le temps nous le permet, je vous informe, mesdames, Karine Villeneuve et Linda Gauthier, Isabelle et moi, Madame Ducharme, ont été sollicités, et nous le sommes toute la semaine, par une équipe de tournage de Toronto, qui parcourt Vancouver, Halifax, Toronto et Montréal pour comparer l'accessibilité.
Oh mon Dieu.
Et je ne sais pas quand ce sera diffusé, ce sera sur AMI et, sais-tu, l'automne 2015, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et on nous pose la question, on s'est promené un peu partout, on est allé au Musée des Beaux-Arts, on est allé hier au Balmoral, nous allons en métro aujourd'hui. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'Isabelle Ducharme n'a pas pris le métro avec son fauteuil électrique, mais on nous demandait la question, qu'est-ce que vous pensez que ça prendrait pour que Montréal soit plus accessible? Quelle serait la stratégie à aborder pour que les choses bougent? Et j'ai envie de que l'on se pose cette question-là.
Bien, moi, je ne vous cacherai pas que que leur applique a un partenariat avec le service aux collectivités de l'UQAM et son service juridique qui est chapeauté par Lucie Lamarche, maître Lucie Lamarche. Bon. Et on en est venu à la conclusion que ça prend absolument une loi comme même si au niveau municipal, là, parce qu'il y a l'article 193 de la loi sur le bâtiment qui permet aux municipalités d'aller au-delà de ce que prescrit le code de construction. Okay? Mm-hmm. On n'est pas obligé d'attendre après l'Assemblée nationale. Là. Et paraîtrait-il que la meilleure chose à faire, la meilleure stratégie serait de négocier avec la ville pour qu'il impose un règlement pour qu'on ait à tout le moins une accessibilité commerciale, au moins des endroits qui sont ouverts au public. Ouais. En leur donnant un horizon, OK, de 15 ans ou 20 ans, mais il faut toujours bien commencer en quelque part. Enfin, ils ne pourront pas prétendre, les commerçants, en disant, ben, c'est une contrainte excessive, ça coûte trop cher et tout ça. Non, parce qu'ils vont avoir tout ce temps-là pour amortir les frais de cet investissement-là. Alors, c'est ce qu'on a trouvé à date.
Et comment inciter les différentes municipalités à aller de l'avant avec une perspective comme celle-là?
Je pense que Victoriaville pourrait nous donner une leçon. Victoriaville, j'étais au congrès, justement, au sommet là, organisé par Kéroul, qui était superbe, soit dit en passant, grandiose. Et justement, la ville de Victoriaville a fait une présentation et on leur a demandé à la fin, est-ce que Denis Coderre, ça vous dit quelque chose? Et on nous a répondu, ouais, le nom nous est pas inconnu. Mais écoutez, eux autres, là, c'est si un commerçant se présente à la ville, va avoir un permis d'exploitation pour ouvrir son commerce sur la rue principale, puis qu'il y a un petit seuil, on va lui demander avant de faire la mise en accessibilité, avant de lui remettre son permis.
Mais est-ce qu'on comprend? Bon, c'est vrai que j'entends souvent que les municipalités entre 50 et 100 000, c'est peut-être un petit peu plus facile de rendre ça à l'échelle humaine, pas juste pour l'accessibilité, mais à bien des égards. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des conseillers qui vivaient avec des limitations fonctionnelles? Est-ce que l'on sait comment on a su convaincre cette approche-là?
Non, ils n'en ont pas parlé, puis on n'a pas eu le réflexe de le demander. Sauf que je sais qu'à un moment donné, il y a eu je sais pas qui est-ce qui a lancé. Je pense que c'est l'OPHQ qui avait lancé un message, en tout cas pour les municipalités accessibles au Québec, là, tu sais, qui voulaient se joindre. Et Victoriaville a embarqué là-dedans. Je pense qu'ils sont rendus comme 39 au Québec, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas tous aussi proactifs que Victoriaville et Drummondville, je dois dire aussi. Ouais. Mais c'est gênant, là. Moi, je trouve que c'est bien, bien, bien gênant de dire que Victoriaville, tu sais, quand même emboîté le pas sur Montréal, tu sais, c'est parce que c'est la métropole.
Oui, je comprends. Mais en même temps, bon, tant mieux. Justement, cette semaine, on me posait la question, est-ce que vous êtes mal à l'aise parce que Vancouver est vraiment plus accessible que Montréal? Puis je disais, ben non, il faut que quelqu'un le soit, puis tant mieux pour eux. Puis ça donne un exemple, puis ça donne une motivation, un point à imiter. Maintenant, il ne faut pas oublier que Vancouver a eu l'exposition universelle en 86, a eu les Olympiques et les Paralympiques en 2010, et on sait très bien que le CIO oblige, lorsque tu veux recevoir les Olympiques, de rendre ta communauté accessible pour ensuite la tenue des Paralympiques. Alors, des fois, c'est parce que tu es gentil, d'autres fois, c'est parce que tu es obligé. Puis on n'a pas les moyens, nous, d'avoir les Olympiques. Disons que ça n'a pas été très, très, très rondement mené lorsqu'on les a eus la première fois. Puis les Paralympiques n'étaient pas dans la même municipalité. Non. À cette époque-là, ça a changé. Ouais, Karine, vous disiez tantôt, ce serait peut-être important, en pensant à la QPPT ou aux personnes de petite taille en général, d'être plus présent. Comment, justement, parce que, bon, vous êtes peut-être un nombre limité, comment être plus présent pour s'assurer d'être entendu et d'être perçu comme des gens qui doivent être considérés?
Bien, c'est faire partie sur les tables de concertation, les comités d'accessibilité, faire
valoir nos
points.
Mais vous êtes combien? Je comprends
que c'est... Non, mais je comprends. C'est sûr qu'on quand on parle d'accessibilité universelle, on comprend bien qu'on ne pourra pas tout répondre tout le temps à tous les besoins de tout le monde. On comprend très bien, mais quand même, plus qu'on en parle, plus qu'on en sensibilise, plus que ce concept-là va être expliqué, puis que, dans le fond, que monsieur, madame, tout le monde comprenne que c'est pas juste pour des personnes en fauteuil roulant. L'accessibilité universelle, c'est pour tout le monde, même pour eux-mêmes aussi. Mm-hmm. C'est se faire comprendre ça, que c'est un enjeu. Moi, même si je suis pas en fauteuil roulant, utiliser le métro, c'est difficile. Aujourd'hui, là, l'escalateur ne fonctionnait pas. Je dois descendre les marches. Moi, ça l'abîme mes genoux. Imaginez les personnes âgées. Quand je promenais ma fille à l'époque en poussette, imaginez, là, c'est difficile. Fait que les parents, tout ça, dans le fond, il faut faut voir que la, faut faire à la population générale, faut montrer que ça, ça, ça concerne tout le monde, pas juste les personnes à mobilité réduite.
Ben c'est ça. Ben c'est de propager ce, ce message-là. Puis c'est, la société, OK, ceux qui n'ont pas de limitation aucune, c'est difficile pour eux à comprendre tant qu'ils sont pas devant le fait accompli.
Ouais, ouais,
OK?
Ouais.
Fait que ça coûte cher. Nous autres, on est des chialeux et c'est tout ce qu'on voit. On lit ça là, sur les commentaires quand on sort des communiqués de presse.
C'est des privilèges.
Oui, des privilèges. Tu sais, l'anonymat du web, là, c'est tellement confortable. Là, puis tu peux dire n'importe quoi. Tu sais, ah, les maudits handicapés. Tu sais, c'est sûr que. Mais, ils pourront pas dire qu'ils seront pas avertis si un jour on leur souhaite pas. Mais ils deviennent à mobilité plus ou moins réduite.
Ouais. Est-ce qu'il y a trop de groupes? Il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a trop de groupes et trop de façons de, d'approcher cet enjeu-là, ce qui fait que, bon, on se divise, on dilue un peu la sauce?
Il n'y en aura jamais assez.
OK. Mm. Karine, vous, votre position là-dessus?
Ben,
parce qu'on
ben,
m'a posé
même,
la question cette
semaine. Même s'il y a plusieurs groupes, il faut quand même, sur certains points, s'allier. Ben, moi, je suis plus... moi, j'aime la collectivité.
Ouais.
C'est sûr qu'on peut, on peut pas tous s'entendre sur plein de petits points, mais dans les grandes questions, il faut s'unir le plus possible.
Ouais. Merci beaucoup, Linda. J'ai entendu que votre micro-ondes vous dit que votre dîner est prêt.
À moi, ça?
Oui, en tout cas, le micro-ondes a sonné chez vous à 50.
Non, j'avais mangé avant que vous m'appeliez, mon cher.
OK, bien, il y a eu un bip, 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 bip à 12h53.
C'est le bip de mon mari.
OK, c'est lui. Bon, ben vous lui souhaiterez bon appétit pour nous. Merci beaucoup de, d'avoir été là. Karine, c'est Nathalie qui vous...
Oui, ma collègue
qui vous substitue la semaine prochaine parce que vous serez dans un conseil d'administration de la COFAN. Alors, on ne veut pas vous empêcher de faire votre travail. Et ben merci à Kamal, à la mise en onde. Jean-Sébastien qui revient la semaine prochaine. Merci à Aline Gargano. Bonne semaine, tout le monde!